Je voudrais vous parler un petit peu du combat spirituel. En effet, dans un passage du livre de Job, il est dit que la vie sur terre est un combat. Et donc, il importe de bien connaître la nature de ce combat et les moyens, bien sûr, pour combattre. Alors, c'est un domaine qui est très vaste, donc je ne vais pas le voir sous toutes ses facettes. Je vais quand même donner au début une vue assez générale, et après je m'arrêterai à un ou deux points un peu particuliers. Donc d'abord, quant à l'ampleur de ce combat, il y a un combat d'abord à mener contre le vieil homme qui est en nous. Donc, comme je vous le disais pour la conférence précédente, qu'il y a une cohabitation en nous, du vieil homme et de l'homme nouveau. Et donc cette cohabitation, hélas, va demeurer jusqu'à la mort, mais on espère quand même, plus on va avancer dans la vie, et plus on arrivera à réduire et à éteindre, si on peut, au maximum, les influences du vieil homme. Donc les influences du vieil homme, c'est ce qu'il reste en nous, des séquelles du péché originel, et aussi malheureusement de nos péchés passés, qui aggravent en fait les blessures du péché originel. Mais ces blessures ont été aussi en partie cicatrisées par toutes nos bonnes actions, par nos actes vertueux, par la grâce de Dieu, bien sûr. Et donc il y a en nous ces blessures d'un côté, donc qui sont plus ou moins profondes en raison de notre passé, et ensuite parfois moins profondes aussi en raison de la grâce. Et en même temps, il y a aussi en nous l'homme nouveau. La prière par excellence du catholique, c'est notre Père. Ce n'est pas notre juge qui êtes aux cieux, vous devant peut-être, qui je paraîtrai ce soir. C'est notre Père, Dieu est Père. Voilà. Et s'il est Père, si nous sommes ses enfants, c'est précisément, on est enfant de Dieu par le baptême. Donc ce titre d'enfant, nous vient du fait qu'on a reçu la grâce. Donc on a reçu une transformation profonde dans notre âme. La grâce, elle est reçue dans l'âme. Donc elle purifie l'âme, elle embellit l'âme. Et donc elle fait de nous des frères de notre Seigneur Jésus-Christ, et donc des enfants de Dieu. Donc ce que notre Seigneur est par nature, lui il est fils par nature, nous le sommes par adoption. Mais c'est plus qu'une simple adoption quand on parle de fils adoptif, d'enfant adoptif. L'enfant adoptif, il n'a au départ rien de ses parents. Sinon, bien sûr qu'ensuite, ses parents vont essayer de donner tout leur amour, leur affection, leur bien. Mais au départ, cette adoption est une adoption qui est juridique. Donc elle est réelle d'un côté, mais elle n'est pas, il n'y a rien au départ chez l'enfant qui ne vienne de ses parents adoptifs. Alors que nous, qui sommes enfants adoptifs de Dieu, il y a de fait en nous, Dieu a fait de nous des enfants, mais en faisant de nous des enfants, il nous a ennoblis réellement, il nous a transformés réellement. La grâce est une participation à la vie même de Dieu. Donc il est important, bien sûr, pour nous de nous souvenir de cela. Parce que certains ont parfois tendance à oublier cet ordre surnaturel, d'autres ont tendance à oublier aussi les faiblesses qui restent en nous. Et donc il faut avoir ce regard catholique sur ce double aspect, un aspect un peu douloureux, pénible à voir, mais qu'il est nécessaire de voir, et un aspect ensuite très enthousiasmant, qu'il est aussi nécessaire de voir pour justement avancer dans la vie. Alors l'Église, vous voyez, dans sa liturgie, tantôt, elle va insister sur un aspect et tantôt sur l'autre. Vous voyez. Tantôt, aux périodes de pénitence, elle mettra surtout l'accent sur la nécessité de nous mortifier, de mortifier nos mauvaises tendances, le temps de l'Avent, le temps du Carême. Et puis ensuite, dans d'autres périodes, des périodes festives, comme la période de Noël, la période de Pâques, là, au contraire, elle va nous inviter à nous réjouir avec notre Seigneur et à vivre un peu plus de la vie nouvelle qui a été déposée en nous au baptême. Donc il y a un combat à mener, et donc ce combat à mener est d'abord un combat à mener donc, contre le vieil homme qui est en nous, et pour cela donc, il faut apprendre à se conquérir, donc acquérir petit à petit la maîtrise de soi, arriver à être maître de nous-mêmes, si possible, dans toutes les circonstances. Alors pour arriver à cela, il y a une guerre à mener, d'abord au péché. Il y aura une guerre à mener après aux mauvaises tendances, mais d'abord la guerre est à mener contre le péché. Alors, dans cette guerre au péché, il y a d'abord la guerre à mener, bien sûr, au péché mortel, vous voyez. Donc le péché qui produit donc la mort dans notre âme. Et à ce sujet, Mgr Lefebvre disait à juste titre que dans tout péché grave va contre la vie. Vous voyez. Dieu, il est la vie, il donne la vie. Et d'ailleurs, plus donc on s'approche de Dieu, plus on est source de vie. source de vie naturelle, source de vie surnaturelle. Et au contraire, plus la société s'éloigne de Dieu, plus elle est mortifère, plus elle produit la mort. La mort par l'avortement, aujourd'hui la mort c'est par l'euthanasie aussi qui apparaît, la mort par le suicide. Donc Dieu est source de vie et le démon au contraire est source de mort. Donc Dieu veut nous donner la vie. Et le péché mortel, justement, eh bien, il s'attaque à la vie. Parce que Dieu, encore une fois, seul est créateur. Donc le démon, la seule chose qu'il peut faire, c'est au contraire, c'est tuer. Dieu est source de vie et le démon, au contraire, cherche à détruire la vie. La vie surnaturelle et même la vie naturelle. Donc le péché mortel, eh bien, il va contre la vie. Lorsque, bien sûr, on tue son enfant dans son propre sein, bien sûr, bien évidemment que ça va contre la vie. Mais même le fait, par exemple, de une calomnie vraiment méchante, eh bien, on détruit la réputation du prochain. Donc ça détruit la vie sociale ensuite de la personne qui ensuite est salie par cela. Un vol important aussi risque ensuite de déséquilibrer eh bien, le budget de la famille bien que l'on vole. Et du coup, donc ça va aussi contre la vie. Donc tout péché mortel, en tout cas, donc s'oppose à la vie. Et on doit tout faire, bien évidemment, pour éviter le péché grave. Mais ensuite aussi, donc quand une âme est déjà plus avancée dans la vie spirituelle, eh bien, il faut aussi qu'elle se purifie. Comme le dit saint François de Sales dans son introduction à la vie dévote, il parle d'abord de la nécessité de se purifier des fautes graves, mais il dit ensuite aussi qu'il faut faire la guerre aux péchés véniels, donc pas uniquement aux péchés mortels, mais aux péchés véniels. Souvent pour nous, vous voyez, dans le terme péché véniel, celui qu'on retient, c'est plus véniel que péché, vous voyez. On dit oui, mais c'est véniel. Oui, de fait, c'est véniel, mais c'est péché, vous voyez. Et donc un péché reste une offense, c'est une offense faite à Dieu, vous voyez. Alors ici, je pense qu'il y a encore une distinction à faire. En théologie, on passe son temps à distinguer, et c'est important pour arriver à apporter des jugements justes. Il y a aussi péché véniel et péché véniel. Oui. Il y a des péchés véniels qui sont liés au pauvre penchant de notre pauvre nature humaine, et qui sont regrettés aussitôt qu'ils sont commis, qui sont plutôt des défauts de nature. Et le péché véniel délibéré, par contre, qui est commis froidement. Et c'est celui-là qu'il faut essayer d'attaquer, en fait, bien sûr, en premier. Donc, un péché véniel qui est, je dis, voilà, moi c'est ma nature, je suis comme ça, hein, on me prend comme je suis, voilà. Et du coup, on ne fait plus aucun effort en ce moment-là pour se corriger. Et c'est cela, en fait, qui va petit à petit paralyser notre âme. Donc, l'empêcher, en fait, de faire le bien. Oui. Parce que saint François de Sales dit aussi, à juste titre, aussi, qu'en parlant des péchés véniels, que le péché véniel, en fait, donc s'oppose à la dévotion, comme le péché mortel s'oppose à la charité. Le péché mortel s'oppose à la charité, c'est-à-dire que le péché mortel détruit la charité dans notre âme, il détruit la grâce dans notre âme. Donc il détruit la charité qui est donc à la base de toute vie chrétienne, normalement. Ça, c'est le péché mortel. Mais le péché véniel, lui, en fait, il va s'opposer. Donc le péché véniel délibéré à la dévotion. Et qu'est-ce que c'est que la dévotion? La dévotion, eh bien, c'est pas le fait d'avoir la tête légèrement penchée du côté gauche, en avant, comme ça. C'est pas ça la dévotion. La dévotion, c'est la promptitude à dire oui à Dieu lorsque le bon Dieu nous demande quelque chose. Vous voyez. La promptitude à répondre oui à Dieu lorsque le bon Dieu nous demande quelque chose. Et donc le péché véniel délibéré, lorsqu'ils sont multipliés, eh bien, ils rendent notre âme beaucoup plus lente à répondre à l'attente de Dieu. Et donc ça, c'est un indice pour nous, je pense. Si on voit qu'on a du mal à se mettre en prière, on a du mal à. Il y a des moments où ça peut être plus difficile parce qu'on a un souci, parce qu'on est fatigué. Mais normalement, on doit avoir le désir, en fait, de rendre à Dieu le culte qui lui est dû. On doit avoir désiré prier, désiré s'améliorer, désiré s'entretenir avec le bon Dieu qui est si bon. Donc ça, c'est la dévotion. La dévotion, c'est cette promptitude à répondre oui à Dieu. Mais celui justement qui commet des péchés véniels délibérés, multipliés, eh bien en fait, par là, il offense Dieu, il blesse Dieu. Alors imaginez par exemple, vous avez une bonne amie, alors si tuer sa bonne amie, on comprend très bien que c'est très grave, bien évidemment. Non mais là, simplement, je lui ai donné quelques claques, c'est tout, enfin, c'était pas si grave que ça. Oui, enfin, n'empêche que Une fois ça passe, mais deux fois, et puis deux ou trois fois, au bout de trois fois ça casse après. Parce que si vous voulez, vous pouvez plus avoir des rapports aussi intimes ensuite avec une personne lorsque régulièrement vous avez ces petites infidélités. Enfin, même, c'est plus qu'une petite infidélité que de donner des claques à son ami. Mais donc vous comprenez ce que je veux dire, ce que je veux dire que c'est par le péché véniel, on fait malgré tout de la peine au bon Dieu d'une certaine manière. C'est ça le péché, c'est une offense à Dieu. Donc c'est une offense qui n'est pas grave, mais ça reste une offense. Et donc ensuite. Quand on dit que la dévotion, c'est justement la promptitude à aller vers le bon Dieu, donc eh bien, le courant ne passe plus aussi bien entre Dieu et nous quand on a ces indélicatesses à l'égard de Dieu. Oui. Et donc, je pense qu'une retraite est là pour nous aider à essayer de purifier notre âme, pour essayer d'avoir cet élan vers Dieu et cette facilité ensuite à répondre oui à Dieu. Parce que l'expérience montre que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. Mais si on est infidèle dans les petites choses, ben ce n'est pas certain qu'on sera fidèle le jour où le bon Dieu nous demandera davantage. Voyez. Et donc voilà pourquoi donc il est important de faire aussi la guerre, donc non seulement au péché mortel, mais aussi au péché véniel. Alors après ce combat à mener contre nos mauvaises tendances, donc liées aux séquelles du péché originel, il y a en plus. Une autre donnée, c'est la question du monde. Donc le combat à mener aussi contre le monde. Le monde, non pas en tant que créature de Dieu, bien sûr, le monde en tant que créature de Dieu, il est bon, mais le monde en tant qu'il est sous la coupe du démon. C'est-à-dire que les maximes du monde vont dans le sens opposé à la grâce. Donc le monde, dans le courant dominateur du monde, eh bien, a tendance à accroître les blessures laissées en notre âme par le péché originel plutôt qu'à les réduire, voyez. Et voilà pourquoi le monde est un danger, voyez. Et c'est intéressant de voir que Saint Jean, voyez, Saint Jean l'évangéliste, hein, qui est vraiment l'apôtre de la charité, Saint Jean l'évangéliste qui a eu la grâce de laisser sa tête se reposer sur le cœur de notre Seigneur, qui a senti battre le cœur de notre Seigneur le soir du Jeudi Saint. Eh bien, à la fin de sa vie, il ne pouvait plus dire qu'une seule chose, c'était aimez-vous les uns les autres. Alors, on dit oui, Jean, on a compris, on doit s'aimer les uns les autres, très bien. Eh bien, le même Saint Jean disait, quand il s'adressait aux jeunes, il leur disait n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Car ce qui est dans le monde, justement, disait-il, il est concupiscence des yeux, concupiscence de la chair et orgueil de la vie. Et il dit cela ne vient pas de Dieu, cela vient du monde. Et de fait, c'est vrai que le monde, dans son courant dominateur, a plutôt tendance à exploiter les séquelles du péché originel pour inciter l'homme à soit à pécher, mais pas toujours à pécher, mais je dirais, à nous installer. Le courant dominateur du monde donc désire que nous nous installions dans ce monde comme si tout se terminait après la mort. Donc le monde cherchera à nous faire oublier. Eh bien, quand nous sommes des êtres d'éternité, et le monde cherchera aussi à nous laisser fasciner par des bagatelles, par des babioles. Voyez. Et donc, c'est en ce sens aussi que le monde peut être un danger pour nous. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde doit rentrer au Carmel, hein, donc chacun sa vocation, mais je pense que c'est important, surtout pour les jeunes, de se rendre compte, eh bien, des pièges que le monde peut tendre, même à des personnes qui sont en elles-mêmes au départ bien équilibrées. Voyez. Et c'est aussi en ce sens que plus la société est dégradée, plus eh bien, les tentations sont grandes. Hein. Donc, c'est sûr que les jeunes d'aujourd'hui ont plus de tentations que ceux qui ont vécu il y a une ou deux générations. Parce qu'avec tous ces moyens aujourd'hui modernes, eh bien, de facilité de la vie et en même temps aussi d'incitation au péché, c'est plus dur pour encore de résister. Donc, d'où l'importance de la lucidité pour mener le bon combat. Et puis ensuite, troisième paramètre, il faut non seulement donc être lucide sur les séquelles du péché originel, sur les dangers que le monde peut entraîner pour nous, et puis ensuite, il y a le démon qui existe. Saint Paul disait bien que ce n'était pas contre la chair et le sang qu'on avait à lutter, mais contre les esprits qui rôdent dans les airs. Donc il faut croire aussi à l'existence du démon et être bien vigilant pour ne pas tomber dans ces pièges. D'ailleurs, Saint Pierre, qui était donc présomptueux le soir du jeudi saint, il a compris la leçon, puisque tous les soirs à l'office des complis, on a une leçon brève où Saint Pierre nous dit frère, donc soyez vigilants, justement, il nous demande d'être vigilants cette fois-ci pour nous, d'être sobres et vigilants, car le démon, comme un lion rugissant, cherche qui dévorer. Donc, quand on imagine un lion rugissant, c'est sûr que ça fait peur. Et bien voilà le démon. Par contre, alors, après, c'est toutes nos armes. Si on regarde que la partie de nos ennemis, je dirais, il y a de quoi être inquiet. Mais ensuite, il faut se dire que le bon Dieu est bien sûr bien plus puissant pour nous sauver que le démon pour nous perdre. À condition que nous prenions les bons moyens. Moyens et naturels et surnaturels. Alors, parmi les dispositions pour combattre, Monseigneur Lefebvre, on l'a entendu à la conférence à midi, parlait de la compunction qui est donc ce sentiment de l'âme qui a conscience de la faiblesse de sa nature, de ce qu'il y a de faible en elle. Et qui, par conséquent, eh bien, cette compunction se traduit par une âme qui est humble, donc petite à ses propres yeux, et en même temps aussi qui va se confier en Dieu, qui va s'appuyer sur Dieu, parce qu'elle est consciente justement de sa faiblesse. Ouais. Donc si on est vraiment conscient de notre faiblesse, et qu'on est aussi conscient de l'amour que le bon Dieu nous porte, cela va nous conduire à nous réfugier auprès de lui, et à éviter aussi certains pièges. Ouais. Donc voilà ce qu'est cette compunction. Ensuite aussi, donc, Monsieur Lefebvre disait cela aussi, et c'est juste, donc il y a un certain esprit de sacrifice qu'il faut aussi développer en nous. L'esprit de sacrifice qui donc consiste à savoir dire non même à certaines choses permises pour être capable de toujours dire non par rapport aux choses défendues. Comme donc le militaire qui va s'exercer en temps de paix, donc il y aura des exercices pour lui, eh bien, afin d'être prêt en temps de guerre. Oui. Donc voilà l'esprit de sacrifice. Et en même temps, on doit aussi sacrifier, bien sûr, ce qu'il y a de déréglé en nous. Donc la religion catholique reste est la religion de l'amour, c'est sûr. C'est la religion du véritable amour, d'ailleurs, de la vraie charité. Il faut bien la comprendre. Donc Dieu est charité, il veut qu'on devienne charité. Mais pour devenir charité, il faut qu'on sache dire non à ce qui s'oppose à la charité. Et donc, il faut sacrifier eh bien, tout ce qu'il y a déréglé dans notre manière d'aimer. Que ce soit dans notre manière de l'aimer lui, ou aussi dans la manière d'aimer notre prochain. Et puis enfin, troisième disposition pour pratiquer ce bon combat spirituel, c'est l'offrande de soi, c'est le fait de se donner à Dieu. Quand on a compris qui nous sommes et qui est Dieu, on est une créature de Dieu, ce n'est pas nous qui nous sommes créés, c'est lui qui nous a créés. On a été non seulement créés par lui, qui est tout amour, mais rachetés par lui, au prix du sang, de son sang. Eh bien, il veut notre bonheur, et donc naturellement, je dirais, une âme bien née, elle se donne à Dieu, quelle que soit sa vocation. C'est-à-dire qu'elle s'offre à lui en disant « Seigneur, faites de moi ce que vous désirez, je sais que vous voulez mon bien. » Donc cette offrande de soi est aussi nécessaire. Et donc, c'est le sens de la prière du matin, normalement, où on fait un acte d'offrande de sa journée. Mais si tous les jours, on offre ainsi sa journée, avec ses joies et ses peines, eh bien, on sera capable, après, le soir de notre vie aussi, de dire, à la suite de notre Seigneur, « In manus tuas, domine, commendo spiritum meum », comme on le chante au compli le soir. « En vos mains, Seigneur, je remets mon esprit. » Alors maintenant, des aspects plus, peut-être encore plus précis dans ce combat à mener. Pour mener le combat spirituel, il est nécessaire pour nous, pour chacun d'entre nous, de bien connaître son défaut dominant. On a tous un point plus faible que d'autres, et donc il importe de bien connaître ce défaut dominant, parce que malheureusement on risque de l'emporter avec nous en partie dans la tombe, mais plus on est lucide sur ce défaut dominant, plus on sera, je pense, fort dans le combat à mener. Donc, notre âme est comme une forteresse, et donc, pour essayer d'atteindre la citadelle, de rentrer dans la citadelle, bien sûr que ce que le démon va chercher à faire, c'est voir quel est le point faible, le point sur lequel il pourra mener plus facilement, nous mettre par terre. Mais. Donc, c'est important de bien connaître son défaut dominant, et pour le connaître, eh bien, bon, parfois, ça crève les yeux, hein. Enfin, au moins des autres, c'est sûr, le nôtre, pas toujours. Mais donc justement, ça peut faire partie des moyens pour le discerner. Si vous n'arrivez pas à le découvrir, c'est de demander à vos enfants, à votre mari. Ils se feront un plaisir de vous répondre. Et Saint François de Sales, par exemple, c'était la colère. Il avait donc un sang bouillonnant qu'il avait hérité de ses parents. C'était vraiment de famille, hein. Et il dit qu'il a fallu 20 ans, en fait, pour lutter contre cette colère. Et quand on parle maintenant de François de Sales, on dit le doux François de Sales. Mais c'était vraiment la vertu, hein. C'était pas. Enfin, faut pas dire ensuite, après, en arrivant chez vous, après la retraite, hein, je t'aime, hein, mais c'est surnaturel, hein. Et Saint François de Sales avait un frère qui était aussi évêque, qui était évêque coadjuteur, donc à Annecy et à Genève. Son frère donc avait le même tempérament, mais peut-être avait eu plus de difficultés à le discipliner. Et un jour, une dame était venue à l'heure du repas pour parler à Saint François de Sales. Donc il avait pris du temps avec elle. Et du coup, son frère s'inquiétait, enfin se pestait un peu parce que le repas allait être froid, quoi. Du coup, il a dû faire ensuite une remarque très désagréable donc à son frère, donc à François de Sales, sur le fait qu'il était en retard. Et puis, alors, en ce moment-là, Saint François de Sales s'est mis à sourire. La réaction de Saint François de Sales, c'était de sourire, montrant qu'il était déjà bien maître de lui-même. Et il paraissait songeur. Et alors, il me dit, tiens, mais à quoi tu penses? Alors, il dit, je pense à une femme en ce moment que tu as rendue heureuse. Alors, il se pose la question, là, est-ce que ce serait bon, avec qui j'ai pu rendre une femme heureuse? De qui il s'agit? Il pose donc la question, est-ce que ce serait une telle, non? Et après, il finit par lui dire, eh bien, enfin, c'est la femme que tu n'as pas épousée, qu'elle lui dit. Petite leçon donnée à Saint François de Sales, à son frère. Donc, pour arriver donc à progresser spirituellement, il importe de connaître son défaut dominant et chercher ensuite bien sûr, à prendre les bons moyens tous les jours pour essayer de lutter contre. Et puis aussi un autre moyen de mener le bon combat, c'est d'apprendre à mieux aimer le bon Dieu, quoi. Je disais au début de la retraite que l'amour est une force. Vous le voyez bien vous-même. Quand on aime quelqu'un vous demande un service. C'est une personne que vous aimez beaucoup. Le service ne vous coûtera presque pas. Voyez. Si c'est une personne que vous n'aimez pas qui vous demande ce service, si vous êtes charitable, j'espère que vous le ferez. Mais ça vous coûtera davantage. Voyez. Donc c'est la preuve que l'amour, pour nous, décuple notre énergie. Voyez. Donc plus on aimera le bon Dieu, bien plus on aura de facilité, je dirais, à faire ce qu'il nous demande. Et plus on aura de force pour dire non aux démons. Voyez. Donc c'est pourquoi c'est important, bien sûr, d'essayer de développer en nous l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu, se développe par la prière, se développe par la fidélité à notre devoir, se développe par aussi par le fait d'apprendre à être heureux là où l'on est, donc ne pas rêver d'un autre état de vie. C'est encore Saint François de Sales qui dit, les gens mariés voudraient chanter le cantique des religieux et les religieux le cantique des gens mariés, pour mieux servir Dieu, dit-il. Soi-disant pour mieux servir Dieu. Et après, il précise que Dieu, en fait, manifeste sa volonté par les événements, et donc par les événements douloureux, aussi bien que joyeux. Et donc, si on dit qu'on préfère, en fait, la volonté de Dieu, en fait, c'est plutôt la croix, en fait, qui nous pèse. Et donc, on désirait, en fait, un autre état de vie que le nôtre, parce que notre croix, eh bien, on en ressent tout le poids, tandis que celle du voisin, on ne la connaît pas, vous voyez. Donc il faut accepter en fait celle que le bon Dieu nous envoie. Alors maintenant, pour mener aussi donc le bon combat dans le combat spirituel, on a parfois des tentations donc qui nous guettent ou des inspirations et on ne sait pas toujours si elles viennent de Dieu, du démon ou de nous-mêmes. Bon, quand elles viennent de nous-mêmes, on le voit, mais parfois on ne sait pas toujours si c'est le bon Dieu ou le démon qui nous trouble. Et donc, il importe de connaître quelques règles qui sont données, qu'on voit d'habitude pour celles qui ont fait donc les exercices de Saint-Ignace, dans les retraites de Saint-Ignace, mais qu'il est bon aussi de voir, je pense, dans ce type de retraite, puisque, quel que soit le type de retraite, les tentations peuvent être les mêmes. Donc, tout d'abord, dans ces règles du discernement des esprits, pour arriver donc à savoir qui nous inspire, si c'est le bon Dieu ou le démon, il faut savoir qu'une façon générale, le démon a tendance à rassurer une personne qui vit dans le péché, Et le bon ange a aiguillonné, au contraire, l'âme qui vit mal, qui vit dans le péché. Donc le démon cherchera toujours à rassurer la personne en lui disant « Tu vois bien que ce n'est pas si grave que cela, tout le monde le fait. » Ou « C'est permis par la loi, donc il faut quand même vivre avec son temps. Voilà. » Ou « Qu'est-ce que les autres vont dire si tu te convertis ?» Donc il va essayer d'utiliser aussi parfois des menaces pour maintenir la personne dans le péché. Ou encore, il ne faut pas exagérer. Ou alors, ce sera aussi assez tôt de te convertir à l'heure de la mort. Donc tout ça, ce sont des faux raisonnements du démon pour maintenir l'âme dans le péché. Et le bon ange, au contraire, il aiguillonne la personne, donc il éclaire, en fait, sur ce qui ne va pas en elle. Il lui dit, tu ne te rends pas compte, si tu mourais aujourd'hui dans cet état, qu'est-ce que tu deviendrais? Tu ne vois pas quand même que c'est honteux de vivre dans le péché? Et puis, qu'est-ce qui te reste après un instant de plaisir? Donc, il cherche, en fait, à éclairer la personne, vous voyez. Et il faut savoir que, eh bien, vous-même, si vous vivez ensuite plus près de Dieu, on voit ça chez les convertis, c'est assez classique, eh bien, les convertis, souvent, eh bien, dans leur entourage, il y a des personnes qui sont très contentes de les voir qu'elles se convertissent, mais il y a aussi souvent la tempête aussi qui se met à poindre à ce moment-là, parce que justement, ces personnes qui se convertissent sont la mauvaise conscience des personnes qui vivent dans le péché. Donc, les personnes qui vivent dans le péché préféreraient en fait que toutes les personnes vivent comme elles, et donc à ce moment-là, le fait de bien vivre, eh bien, est un reproche vivant pour elles. D'où les agressivités dont sont victimes souvent les personnes qui se convertissent. Mais sans aller jusque-là, je vous raconte cette histoire parce qu'elle m'avait bien marqué. Chaque année, presque, on fait le pèlerinage Chartres-Paris, au moins la dernière étape. Et donc, on a un chauffeur de car qui nous conduit à Paris. Et puis, une année, le chauffeur de car, en général, ils sont assez intrigués quand ils voient 20 ou 30 soutanes d'un coup. En plus des jeunes, c'est sûr que ce n'est pas forcément ce à quoi ils s'attendent en venant chercher donc les séminaristes de Flavigny, à moins qu'ils connaissent qui nous sommes. Et là, donc, quand les séminaristes rentrent dans le car, donc, on commence par dire l'office des Laudes. Ensuite, on fait une demi-heure d'oraison, de méditation. Et puis, ensuite, je dis aux séminaristes qu'ils peuvent parler. Quoi, voilà. Et à ce moment-là, alors, le chauffeur, donc cette année-là, donc un des chauffeurs... Donc les séminaristes, bon, très souriants, avaient salué le chauffeur, donc il s'était assis, voilà, donc il y avait eu cette heure de prière. Et visiblement, pendant cette heure de prière, il a eu le temps de faire largement son examen de conscience. Vous allez voir la réaction. Le chauffeur de car, il se tourne vers moi, il me dit, mais oui, vous comprenez, mais moi, avec mon métier, c'est quand même pas facile d'assister à la messe tous les dimanches. Alors, je dis, mais monsieur, Paris, c'est tout droit. Hein. Moi, je ne lui ai posé aucune question. Visiblement, ça l'avait vraiment intrigué. Voilà. Et assez souvent aussi, on a par contre des réactions très, très, très agréables aussi des chauffeurs quand ils voient les séminaristes. Quand on va à la Salette, donc on fait ça chaque année, on part pour 3 ou 4 jours. Et là, je demande aussi, parfois à la fin du séjour, un petit peu au chauffeur de faire son petit témoignage. Donc, le séminariste chante un petit chant juste avant d'arriver ici pour remercier le chauffeur. Et puis en ce moment-là, donc, lui prend le micro et puis il dit, ça c'était cette année, il dit... j'étais très content des 4 jours passés avec vous. Ce que j'ai beaucoup apprécié chez vous, c'était le respect. C'est la première chose, le premier mot qui est venu à la bouche. Hein, parce qu'aujourd'hui, on sent bien que l'homme actuel manque de respect. Donc le respect, et puis ensuite la convivialité. C'était les deux termes qui... Il y a du chemin qui se fait. Oui, après, il y a un autre après qui, une fois après, il m'a annoncé qu'il avait fini par se marier. Donc il était tout content. Enfin, petit à petit, des évolutions qui parfois se font comme ça. Mais sachez donc en tout cas qu'une personne qui vit dans le péché, donc le démon a tendance à rassurer et le bon ange, au contraire, à aiguillonner. Donc il ne faut pas être surpris parfois de voir des réactions un peu agressives même des personnes de notre entourage lorsqu'on se rapproche de Dieu. Par contre, alors, lorsqu'une personne vit bien, je dirais vit correctement, donc a une bonne vie chrétienne, eh bien là, le démon et le bon ange vont agir en sens inverse de la règle précédente. À savoir que le bon ange va apaiser l'âme. Il va au contraire l'encourager, voyez, dans l'amour de Dieu. Il va lui montrer que la voie de la sainteté est tout à fait possible. Donc une personne qui, en général, d'une façon ordinaire, est en état de grâce, le bon ange est plutôt là pour la stimuler, l'encourager, et donc à poursuivre sa route dans cette direction. Et le démon, au contraire, alors va troubler l'âme, vous voyez. Et donc, si bien qu'il y a des moments où on voit tout en noir, on a l'impression qu'on n'a plus rien compris, qu'on n'arrivera jamais, que la dévotion n'est pas pour nous, que tous les autres sont au septième ciel et nous, on n'y arrive pas. Et donc, on se pose 1000 questions, donc, qui commencent par qui c'est si, peut-être que si jamais. Alors, en général, ça, c'est pas de Dieu, vous voyez. Parce que lorsque justement on vit bien et que le bon Dieu nous éclaire, c'est clair, vous voyez. Et si c'est trouble, si c'est plus je cherche, moins je vois, eh bien, en ce moment-là, c'est pas de Dieu, vous voyez. Donc c'est important pour nous, bien sûr, de savoir cela. Et donc ne pas nous étonner qu'il y ait des moments un peu plus difficiles dans une retraite, par exemple, durant les 5 jours, des moments plus difficiles à traverser. Et ce qui montre bien d'ailleurs que c'est le démon qui peut nous troubler à certains moments, c'est que alors que ce sont les mêmes prédications qui sont faites, eh bien, certaines personnes sont plus troublées au tout début, d'autres au milieu, d'autres à la fin. Oui. Donc c'est bien un indice que c'est le démon qui souvent cherche à mettre les bâtons dans les roues. Alors dans les périodes où on est plus troublé, eh bien ce qui importe à ce moment-là, c'est de ne pas changer ses résolutions. Voyez. Je suis troublé, donc j'arrête tout. Non, je suis troublé, donc je continue. Voyez. Parce que visiblement, dans les périodes de trouble comme celle dont je parle en dernier, c'est le démon qui nous trouble. Et donc bien sûr qu'il ne faut pas rentrer dans son jeu. Voyez. Donc c'est pourquoi, normalement, en temps de désolation, on ne doit pas changer ses résolutions. Oui. Et puis aussi, donc, dans une voiture, vous avez un grand pare-brise devant vous, donc pour vous aider à avancer. Et vous avez des rétroviseurs, donc qui sont très utiles aussi. Mais c'est vrai qu'on sent bien qu'il y a certaines âmes qui, dès qu'elles se retrouvent un peu dans le silence, ont tendance à trop se regarder. Oui. Donc elle regarde beaucoup trop dans les rétros. Oui. Alors si on passe son temps à regarder dans les rétroviseurs, ben c'est sûr qu'on risque de ne pas avancer très vite, hein, ou on risque aussi de se planter. Oui. Donc heureusement qu'on a des rétroviseurs pour nous permettre de voir où on en est, donc qui nous permettent de revenir voir après si on est dans la bonne direction. Mais il ne faut pas se contenter de regarder dans les rétroviseurs. Oui. Donc il faut d'abord se regarder devant soi. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut privilégier les actes directs sur les actes réflexes. Oui. La possibilité de revenir sur soi est excellente. Ça nous permet aussi donc de faire le point, bien sûr. Mais il ne faut pas passer son temps à toujours ressasser le passé, s'inquiéter de l'avenir. Donc il faut essayer de vivre dans le présent. Voyez. Pour le bon Dieu est dans le présent. Pour Dieu, il n'y a ni passé ni futur. Voyez. Donc si je veux être en communion avec Dieu, je dois vivre dans le présent. Voyez. Alors bien sûr qu'ensuite organiser, c'est prévoir. Donc il faut que j'arrive à porter un jugement sur l'avenir. La lucidité aussi sur soi suppose donc de revenir aussi sur le passé pour voir ce qu'on aurait éventuellement à corriger, mais c'est à faire d'une façon, je dirais, assez rapide. Il ne s'agit pas de passer son temps, si vous voulez, à prendre sa température. Vous voyez. Et puis aussi dans les périodes de trouble, c'est aussi bien de s'ouvrir à un prêtre. Parce que souvent le démon, ben, le fait simplement d'être reconnu, ça suffit pour qu'il, à ce moment-là, il disparaisse. Voyez. Alors maintenant, j'ajouterai encore, comme toujours dans les tactiques pour arriver à déjouer les pièges du démon, ces premières règles du discernement des esprits, je pense, nous aident déjà à dégrossir les réactions qu'on doit avoir face aux tentations que l'on peut éprouver à certains moments. Et maintenant, j'ajouterai aussi qu'il y a encore aussi d'autres tentations qui peuvent toucher des âmes qui sont plus avancées dans la vie spirituelle. À savoir que le démon ne va plus les tenter par le mal, mais les tenter sous apparence de bien. Donc là, c'est plus fin, je dirais. Parce que normalement, quand le démon nous tente de faire le mal, on est plus lucide pour réagir, pour essayer de ne pas rentrer dans son jeu, vous voyez. Alors que quand c'est sous apparence de bien, eh bien là, on peut plus facilement se faire avoir. Par exemple, le curé d'Ars, eh bien, qui était ascète, qui était très généreux, qui priait énormément et qui est passé toute sa vie au confessionnal, eh bien, le démon ne l'a pas tenté avec des péchés grossiers, ça n'aurait pas marché. Voyez. Mais il a tenté sous apparence de bien. Donc c'était pour lui, c'était la tentation, c'était d'aller pleurer sa pauvre vie à la trappe. Donc rentrer à la trappe, c'était en soi, c'est pas une mauvaise chose. Mais pour le curé d'Ars, eh bien, le bon Dieu le voulait, eh bien, à Ars et non pas au fin fond d'un couvent. Voyez. Donc ça. Alors, les traductions ensuite, pour une mère de famille, c'est par exemple, eh ben, c'est de passer tout son temps au prieuré pour aider les prêtres et de négliger le soin de ses enfants, par exemple. Ou l'expérience des prêtres ouvriers, eh bien, de désirer s'ouvrir à la masse, en soi, c'est une bonne chose, donc pour essayer de convertir les gens. Mais ensuite, après, en voulant être le levain dans la pâte, eh bien, eux-mêmes, ils sont devenus, beaucoup d'entre eux, des syndicalistes jésuitistes, et puis ils ont perdu totalement l'idéal sacerdotal. Oui. Ou dans l'apostolat, pour un prêtre, eh bien, ça peut être d'être trop replié sur lui-même, ou au contraire, trop ouvert aussi, donc avoir une ouverture excessive qui le conduit au libéralisme ou autre. Oui. Donc, il faut essayer donc ici après de se connaître pour essayer de voir aussi l'équilibre de notre vie, donc dans tous nos devoirs. Ce sera l'objet après peut-être de la deuxième partie de la retraite, par rapport aux résolutions, de voir si on arrive à bien remplir tous ses devoirs envers son conjoint, ses enfants, si on est marié, si on est célibataire, eh bien ensuite la gestion aussi de son temps, pour équilibrer tout cela. Parce que parfois, il y a des tensions dans le ménage, parce que justement, on fuit un petit peu le ménage parce qu'on ne s'entend pas très bien, mais du coup, on cherche un refuge ailleurs, parce qu'on a besoin de se rendre utile. Mais ensuite, ça peut être le problème premier, peut-être d'abord, de régler le problème au sein même de sa famille, voyez. Ou de s'occuper d'autres enfants que les siens, donc, parce que les siens sont parfois un peu difficiles, mais voilà. C'est comme ça. Donc après, c'est à chacun de voir, mais. Donc, on a des forces qui sont limitées, on a un temps qui est limité, mais donc notre but, c'est de faire la charité, donc de devenir charité, mais il y a un ordre à remplir dans la charité. Et Saint Paul dit bien, celui qui n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Donc, ça veut dire on doit normalement, à nécessité égale, bien sûr, à nécessité égale, je dois aider en premier lieu celui qui est plus proche de moi. Plus proche de moi par les liens du sang, plus proche de moi par les liens de la religion, plus proche de moi par le lien aussi de la patrie. Donc c'est tout à fait normal. Je dis bien à nécessité égale. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas ensuite après des vocations particulières, même d'aller de donner sa vie pour telle population ou telle nation, donc les missionnaires et tout cela. C'est donc eux, c'est leur vocation. Et puis alors pour vous aider donc encore aussi à non plus tant dans le combat spirituel ici, mais plutôt dans la direction de votre vie, Saint François de Sales dit que pour aussi ne pas tourner en bourrique toujours, enfin en sachant pas toujours les décisions qu'on en a à prendre, il a un chapitre dans son livre sur le traité de l'amour de Dieu intitulé Brève méthode pour connaître la volonté de Dieu. Et donc il nous dit que le bon Dieu se fait connaître à nous d'abord par les commandements qu'on doit observer, bien sûr. Par les conseils évangéliques aussi, donc que certaines personnes donc embrassent, donc la voie des vœux, de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Donc je vois des commandements, vois des conseils, commandements de Dieu, commandements de l'Église. Et donc là, on n'a pas à se poser 1000 questions, donc on doit essayer d'observer ces commandements. Et quand c'est au conseil, eh bien, faut voir si ces conseils, on peut les suivre ou non en fonction après de la voie qui est la nôtre. Mais ensuite, après, quand on a des grandes décisions à prendre, alors il nous dit que l'on doit réfléchir, donc peser le pour et le contre, donc utiliser sa jugeote, hein, son intelligence. On doit ensuite prier Dieu, donc demander les lumières du bon Dieu, surtout pour les grands choix. On a parfois des grandes décisions importantes, enfin des décisions très importantes à prendre. Et puis ensuite, eh bien, prendre aussi conseil auprès de deux ou trois personnes avisées, dit-il, des personnes sages, prudentes, qui pourront nous donner ensuite le meilleur éclairage. Oui. Et ensuite, alors, il nous dit que une fois qu'on a pris la décision, ce qui est important, c'est de ne plus revenir dessus. Et il donne comme règle, il dit, la résolution étant saintement prise, il ne faut jamais douter de la sainteté de l'exécution, car si elle ne tient à nous, elle ne peut manquer. Faire autrement, c'est une marque d'un grand amour-propre ou d'enfance, faiblesse ou niaiserie d'esprit. Donc, ça, c'est pour les événements importants. Par contre, après, pour les petites décisions qu'on a à prendre à la vie courante, eh bien là aussi, il y en a qui voudraient toujours choisir ce qu'il y a de mieux et qui perdent énormément de temps et d'énergie pour faire les choix. Et donc là, il dit qu'il faut essayer d'aller à la bonne foi, tout simplement, quand il n'y a pas grande différence entre une action et une autre. Et à quel propos me mettrais-je en dépense pour apprendre si Dieu aime mieux que je dise le rosaire ou l'office de Notre-Dame, puisqu'il ne saurait y avoir tant de différence entre l'un et l'autre qu'il faille pour cela faire une grande enquête? Que j'aille plutôt à l'hôpital visiter les malades qu'à Vêpres, que j'aille plutôt au sermon qu'en une église où il y a une indulgence. Et c'est là qu'il ajoute ensuite qu'il faut être bien humble et ne point penser de trouver la volonté de Dieu à force d'examen et de subtilité de discours, mais il faut essayer d'aller donc à la bonne foi, comme on le pense. Voilà. Ensuite, encore quelques conseils, toujours pour la vie spirituelle, pour le combat spirituel. Il y a des gens aussi qui sont un peu paralysés parce qu'il y a des mauvaises pensées qui leur traversent l'esprit et elles se demandent s'ils ont pensé péché, pas péché, péché gravement, pas péché gravement. Et du coup, ça les trouble énormément. Donc ici, dans les règles du livre bleu des exercices de Saint Ignace, donc l'auteur dit ceci. On peut mériter en deux manières lorsqu'une mauvaise pensée vient du dehors. Ce n'est pas une pensée qu'on a recherchée, c'est une pensée qui nous arrive comme ça, paf, ça nous tombe dessus. Voilà. Premièrement, si lorsque la pensée de commettre un péché mortel se présente, je lui résiste aussitôt et qu'ainsi j'en triomphe. Donc j'ai une mauvaise pensée, je la rejette, en ce moment-là, je n'ai pas péché, mais au contraire, j'ai même acquis un mérite. Ensuite, je peux encore mériter, dit l'auteur, secondement, donc si d'abord repoussée, cette mauvaise pensée revient une ou plusieurs fois et que je lui résiste toujours jusqu'à ce que je la chasse entièrement. Cette seconde manière est d'un plus grand mérite que la première. Donc si j'ai une mauvaise pensée qui vient, que je la chasse, qu'elle revient, que je la rechasse, qu'elle revient, que je la rechasse, bien sûr qu'à ce moment-là, je mérite à chaque fois. Voilà. Mais, donc le signe ici, comme dit Saint-François de Sales encore dans un autre passage, il dit que tant que ça nous agace comme des mouches importunes qu'on cherche à, ou des moustiques qui nous agacent, en ce moment-là, on n'a pas à s'inquiéter. Voilà. Maintenant, ensuite, il ajoute, on pêche véniellement quand la pensée de pécher mortellement s'offrant à l'esprit, on lui prête l'oreille en s'y arrêtant quelques instants, ou lorsqu'on en reçoit quelques délectations sensuelles, ou lorsqu'on apporte quelques négligences à rejeter cette pensée. Donc, il parle de péché véniel en ce moment-là, c'est si on aurait une pensée de péché mortel qui viendrait à l'esprit, et qu'on s'y arrête quelques instants, parce que parfois, c'est pas aussi net que dans un écrit, dans la réalité. Donc du coup, après, il y a ce que j'ai pensé, pas pensé, voilà. Donc, si on s'y arrêtait un petit peu, voilà, donc on dit que c'est une faute grave. Une faute véniel, pardon. On pêche par contre mortellement en deux manières. La première, lorsque l'on consent à la mauvaise pensée avec l'intention de commettre ensuite le péché, dont la pensée se présente, ou avec le désir de le commettre si on le pouvait. Et la seconde, quand on commet extérieurement le péché. Donc là, il semblerait d'un péché mortel contre la pureté commis avec une autre personne, d'après ce que dit la suite. Parce qu'il dit ensuite, le péché d'action est plus grave que le péché de pensée pour trois raisons. Premièrement, à cause de la durée qui est plus longue. Secondement, à cause de l'affection désordonnée qui est plus forte. Troisièmement, à cause du dommage qui est plus grand pour les deux personnes. Mais donc, par rapport à ce dernier aspect, c'est donc le fait qu'on peut pécher gravement sans avoir commis un péché extérieur, si vous voulez. Parce que, par exemple, quelqu'un décide d'aller dévaliser une banque, et la banque est fermée ce jour-là, donc il ne la dévalise pas parce qu'elle est fermée. Hein. Mais en fait, c'était son intention. De fait, il a péché gravement, même s'il n'a rien fait. Parce que c'était son intention. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là qu'on peut dire qu'il peut y avoir un péché mortel, même s'il n'y a pas eu de... Enfin, j'espère que ce que je vous dis là ne vous embrouille pas, mais vous éclaire. C'était le but, hein. Sinon, n'hésitez pas à venir voir un prêtre. Mais si, dans mon livre, en tout cas, un livre bleu, c'est la page 319. Mais je pense que c'est assez clair. Parce que certaines personnes scrupuleuses, disons, sont toujours en train de se demander si elles ont péché gravement ou pas dans ces domaines délicats. Et donc, je pense que ça peut les aider. Ensuite, quand on arrive justement à la question du scrupule, vous avez encore quelques règles qui sont données. On nomme assez communément scrupule un jugement libre et volontaire par lequel nous prononçons qu'une action est péché lorsqu'elle ne l'est pas. Par exemple, lorsqu'il arrive à quelqu'un de juger qu'il a péché en mettant le pied par hasard sur deux brins de paille en forme de croix. Or, ceci est plutôt à proprement parler un jugement erroné qu'un scrupule. Deuxième règle. Mais après avoir marché sur cette croix ou après avoir fait dit ou pensé une chose quelconque, il me vient du dehors la pensée que j'ai péché. D'un autre côté, il me semble intérieurement que je n'ai pas péché. J'éprouve en cela du trouble. Parce que je me dis, mais j'ai péché. Non, j'ai pas péché. Ah si, j'ai péché. Ah non, j'ai pas péché. Mais si, j'ai péché. Mais non. Ah voilà, ça c'est le scrupule. Voilà. Donc on peut appeler cela donc un scrupule et une tentation que l'ennemi fait naître en moi. Donc première règle, quand on se dit, j'ai marché sur quelque chose qui est en forme de croix, donc est-ce que j'ai fait un péché? Donc il dit qu'il faut abhorrer, donc il faut détester ce genre de scrupule. Voilà. Quant à la seconde, indiquée dans la seconde règle, Bon, il dit qu'elle est très utile durant quelque temps à l'âme qui s'adonne aux exercices spirituels. Bon, utile peut l'être, mais c'est toujours en tout cas très pénible à vivre. Donc, je pense que dans ces cas-là, il faut plutôt éviter, disons, que ça ne tourne à l'obsession. Et pour ne pas que ça tourne à l'obsession, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de ne pas trop y penser. Vous voyez. Parce que dans le domaine du blasphème ou de la pureté, le combat à mener est à mener bien sous la forme de la fuite et non pas sous la forme de l'agir contre, de l'agir et contra. Parce que quand on ne veut pas penser à une chose, il ne faut pas que je pense à ça, paf, j'y repense, oh, mais j'y pensais, non, j'ai pas pensé. Alors, c'est une espèce de cercle infernal. Vous voyez. Et donc, le mieux, c'est d'essayer de s'occuper à autre chose, c'est de se tourner vers le bon Dieu, c'est d'avoir une activité pour éviter que ça tourne, que ça ne tombe à l'obsession. Et puis après, il faut essayer d'être simple avec le bon Dieu, et simple aussi avec le prêtre en confession, en disant les choses comme on les voit. Vous voyez. Donc, mais ce n'est pas en revenant sans cesse sur soi que, eh bien, qu'on arrivera plus facilement à voir la lumière. Vous voyez. Et pour terminer, alors maintenant, je dirais donc d'éviter les retours inutiles sur soi. C'est ce que disent donc beaucoup d'auteurs spirituels. Donc dans une retraite, encore une fois, c'est nécessaire à certains moments. Hein, donc c'est quand on prépare sa confession, bien sûr. Mais je parle plutôt de la vie courante, où certains dans la vie courante sont toujours en train de se regarder pour voir si ça va bien. Voilà. Et c'est pas bon en fait. Par exemple, l'auteur des Portes du Silence. Ne rappelez, ne ravivez aucun souvenir mauvais. Le mal regretté est pardonné. La générosité de l'amour présent répare le passé. Oubliez-en les données concrètes. Il suffit de vous tenir devant Dieu, bénéficiaire de son infinie miséricorde. Le mal est un néant. À quoi bon s'en souvenir? Pensez seulement à la grâce qui vous a sauvé, à ses rejaillissements éternels. Dieu a tout détruit. Il ne collectionne pas les néants. Gardez pour lui un cœur filialement contrit, paisible et tendre. Étendre, c'est cela la componction dont je parlais tout à l'heure. Ne parlez pas de vous-même à vous-même. Les moments d'examen sont rares et brefs, quelques minutes à midi et le soir. Hors de là, ne pensez à vous ni en bien ni en mal, pour ne pas éveiller l'amour-propre ni vous décourager. Quand vous songez à vous, votre image si grossière se substitue dans le miroir de votre âme à la très pure bonté de Dieu. La bienheureuse Élisabeth de la Trinité disait aussi: il me semble que l'âme la plus faible, même la plus coupable, est celle qui a le plus lieu d'espérer. Et cet acte qu'elle fait pour s'oublier et se jeter dans les bras de Dieu le glorifie et lui donne plus de joie que tous les retours sur elle-même et tous les examens qui la font vivre avec ses infirmités, tandis qu'elle possède au centre d'elle-même un sauveur qui vient à toute minute la purifier. Donc il faut plutôt regarder le bon Dieu qui nous aime, donc nous voir. Eh bien, à la lumière de Dieu, croiser le regard miséricordieux de notre Seigneur comme Saint Pierre après sa chute, plutôt que de nous regarder nous-mêmes. Le père Liberman disait à son tour: les retours qui rendent l'âme paisible sont des retours sur Dieu et non les retours sur soi. Saint Antoine du désert: pour bien prier, il ne faut pas savoir que l'on prie. Saint François de Sales: il y a des esprits fertiles et foisonnants en considération. Il y en a qui sont souples, repliants, et qui aiment grandement sentir ce qu'ils font, qui veulent tout voir et tout éplucher, ce qui se passe en eux, retournant perpétuellement leur vue sur eux-mêmes pour reconnaître leur avancement. Il y en a d'autres encore qui ne se contentent pas d'être contents s'ils ne savourent pas leur contentement, et sont semblables à ceux qui sont bien vêtus contre le froid, mais ne penseraient pas l'être s'ils ne savaient combien de robes ils portent, ou qui, voyant leur coffre-fort plein d'argent, ne penseraient pas être riches s'ils ne connaissaient pas le compte de leurs écus. Or, tous ces esprits sont ordinairement sujets d'être troublés en la sainte oraison. Car si Dieu leur donne le sacré repos de sa présence, donc là il parle d'une âme qui prie et qui est en train de regarder si elle prie bien. Mais si vous vous regardez prier, vous ne priez plus en fait. Voilà. Donc si Dieu leur donne le sacré repos de sa présence, ils le quittent volontairement pour voir comme ils se comportent en lui. S'inquiètent pour savoir si leur tranquillité est bien tranquille. Au lieu d'occuper doucement leur volonté à sentir les douceurs de la présence de Dieu, ils emploient leur entendement à discourir sur les sentiments qu'ils ont. Comme une épouse qui s'amuserait à regarder la bague avec laquelle elle aurait été épousée, sans même voir l'époux qui la lui aurait donnée. C'est un peu dommage, hein? surtout pour l'époux. Il y a une grande différence entre s'occuper en Dieu qui nous donne du contentement et s'amuser au contentement que Dieu nous donne. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans l'histoire d'une âme aussi, dit « Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à échapper à leurs propres complications. Ils se laissent ligoter par mille liens insignifiants parce qu'ils ne s'exercent pas suffisamment à aimer. Leur erreur est qu'ils ne cherchent pas à aimer sans s'occuper de leur caractère. Quels remèdes doivent-ils employer pour s'en sortir ? Tant qu'ils s'occupent de leur psychologie, ils restent ficelés en eux-mêmes. Qu'ils se préoccupent d'abord d'aimer, se rendent attentifs autant que possible au visage de l'aimer, donc à notre Seigneur justement, qu'ils méprisent les piqûres d'amour-propre et l'attendrissement sur leur cas. Bref, qu'ils fassent abstraction d'eux-mêmes et alors leur cœur se fortifiera et ils iront de victoire en victoire. » Donc ne pas se regarder, mais regarder Dieu. C'est comme ça qu'on avance. Ouais. Donc, en conclusion, il faut, pour mener ce bon combat spirituel, donc contre toutes nos mauvaises tendances, les tentations que l'on peut avoir, aussi pour nous relever aussi après nos chutes, eh bien, nous devons apprendre, et la retraite est là pour nous y aider, à vivre de foi, d'espérance et de charité. Donc, la vie chrétienne est une vie théologale. Donc, nous devons reconnaître, bien sûr, notre misère, mais surtout la miséricorde de Dieu, et donc vivre dans l'action de grâce pour les biens reçus de Dieu, et puis ensuite savoir s'abandonner donc à la divine providence. Voyez. Et puis ensuite savoir accepter ses limites, voyez. Donc s'accepter tel que l'on est. Voyez. On doit être patient vis-à-vis des autres, mais on doit être patient vis-à-vis de soi-même aussi. Donc il faut savoir accepter ses propres limites. Voyez. Donc savoir accepter de ne pas connaître parfaitement où vous en êtes aussi. On aimerait bien pouvoir juger, savoir si le bon Dieu est bien content de nous. Si, et bien, on est là pour vivre de foi. Donc, à nous de voir quel pas mettre en avant pour essayer d'aimer Dieu davantage, en sachant que la mesure de l'aimer, c'est d'aimer sans mesure. Voilà. Donc, demandez à la Sainte Vierge, elle qui est encore aussi un beau modèle hein, d'âme contemplative, active. La Sainte Vierge était aussi très présente dans son devoir d'État, très délicate avec Saint Joseph, avec l'enfant Jésus, avec les autres, hein, avec les autres femmes, avec les personnes qu'elle rencontrait. Donc, mais elle était très oublieuse d'elle-même, donc on voit qu'elle était, non pas qu'elle se négligeait, mais c'était avant tout, ce qu'elle cherchait avant tout, c'était à plaire à Dieu. Oui. Donc avancez sur cette voie, et c'est ce qui vous permettra de gagner en sérénité et en fécondité de vie. Donc nous allons nous rendre à l'église pour une petite prière.